Mais il y a des gens qui disent que c'est un peu abusif. J'étais dans une conférence comme ça il y a quelques jours et le type disait « C'est bizarre cette émission d'humour le matin dans laquelle il y a de temps en temps des informations.
» Je trouve ça très bien, très belle, en fait.
Je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'Arthur de différent? Pourquoi est-elle différente, comme le dit très bien madame? Et quels sont ses moyens de subsistance?
C'est une bonne question.
Alors Arthur, c'est un consortium franco-allemand. Il regroupe la France, la République française et des Länder allemands. Donc c'est une chaîne publique qui a des moyens propres, qui produit, mais qui coproduit surtout beaucoup avec des producteurs privés ou avec des institutions ou avec des chaînes, la ZDF, la WDR, donc les chaînes allemandes publiques coproduisent avec Arte. Et puis qui achète aussi beaucoup de productions faites par des indépendants. Ils ont un budget relativement important, intéressant, mais ils sont quand même redevables d'un certain résultat d'audience devant leur mandant. Et donc, par exemple, sur Arte, vous voyez de plus en plus de fiction, par exemple, de plus en plus de feuilletons, de séries. Parce que là aussi, la logique de l'audience, elle est là, de ne pas se permettre de faire que du documentaire ou du magazine. Et même la BBC n'échappe pas non plus à la loi du marché, elle fait des jeux parfois très stupides d'ailleurs. L'avantage de la BBC par exemple, c'est qu'elle perçoit elle-même sa redevance. Donc le public britannique verse son argent à la BBC, pas à l'État qui restitue éventuellement à la chaîne et à la BBC. Et donc, il y a une sorte de solidarité spontanée entre le public britannique et sa chaîne. Elle lui appartient, elle n'appartient pas à l'État. Elle appartient au public. Et ça, ce serait une piste formidable pour les services publics, pour le faire échapper à cette logique implacable du marché. Mais malgré tout, je vous dis, malgré ça, même la BBC n'échappe pas à la logique implacable du marché, elle est obligée de s'aligner, parce que c'est un peu comme cette fameuse maxime qui dit « la mauvaise monnaie chasse la bonne, la mauvaise télévision chasse la bonne ». Sur un marché donné, le public va toujours, le grand public va toujours pencher davantage vers les contenus simples, racoleurs, populaires, divertissants, amusants, légers. Et donc on sait qu'il y aura des publics de niche pour des chaînes comme Arte, pour France 5, pour les chaînes payantes, pour les chaînes à péage, etc. Mais le grand public va toujours aller vers des contenus simples. Donc il y a peut-être un enjeu. Moi, quand j'étais à la TBF, je disais toujours qu'il faudrait essayer de trouver le langage qui soit à la fois divertissant, populaire et qui permette de faire passer du contenu. Mais ça demande des moyens et ça demande une réflexion, ça demande un talent extraordinaire. La pente la plus simple, c'est de faire ça, c'est de ne pas se poser trop de questions.
Mais ces émissions légères durent une saison, deuxième saison, elles chutent et puis disparaissent.
Le voice, ça tient quand même depuis un
Mais quand vous voyez, vous parlez de moyens, mais bon, ça c'est ancien, mais les émissions de Bernard Pivot, par exemple.
Ça ne demande pas énormément de moyens.
Il ne semble pas, il semble. Et c'était quand même
une
audience...
C'était une période où la concurrence était beaucoup moins forte.
Oui.
Et puis, je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a des formes qui deviennent obsolètes simplement parce qu'elles ne sont plus pratiquées. Et ce serait tout à fait révolutionnaire aujourd'hui de refaire des émissions comme celle de Pivot ou comme celle d'Henri Guillemin, vous savez, où 20 minutes tout seul face à une caméra.
Il y a la grande librairie, quand
même. Oui, ça reste. Il y a des émissions de niche comme ça. Et si vous faites la comparaison entre la programmation d'une chaîne de service public, quels que soient les défauts qu'on puisse lui trouver, et les critiques de monsieur sont tout à fait légitimes, et la programmation d'une chaîne privée, vous allez trouver quand même de grosses différences. D'abord, les chaînes publiques produisent. Elles produisent. Elles n'achètent pas seulement. Elles ne délèguent pas seulement ou elles ne sous-traitent pas seulement à des entreprises commerciales. Elles produisent des magazines, des émissions. Hein ? Question à la une, c'est produit par la TBF. devoir d'enquête est produit par RTB. Tous les magazines qui font, depuis toujours d'ailleurs, plus la réputation de la RTBF que son journal télévisé ou d'autres émissions de ce type. On n'est pas des pigeons, c'est une production.
Question à la une, quel est le budget qu'ils ont?
Mais, je ne sais pas quel est le budget, mais c'est un...
Ça doit être important.
C'est un budget suffisant pour produire, en tout cas. Ouais. Donc, pour produire maison, avec des équipes maison, et pas en délégation ou en coproduction avec l'extérieur. Il y a aussi des délégations et des coproductions extérieures, mais de plus en plus, malheureusement, mais il y a beaucoup de production maison, et donc il y a une ligne éditoriale qu'on peut contrôler et maîtriser. Et disons que dans la plupart des cas, les chaînes ou les sociétés de services publics contribuent davantage que les chaînes privées à la richesse du débat public, notamment par les émissions de débat, les forums, les agora, etc. Mais bon, avec bien sûr des lacunes, avec des critiques, c'est clair, et avec cette logique du marché qui pénètre quand même très fort, surtout dans les chaînes leaders, c'est-à-dire plus sur la 1 que sur la 2 ou sur la 3, plus sur France 2 que sur France 3, France 4, France 5. Voilà, il y a une sorte de stratégie globale comme ça qui est de dire, bon, ben, on va essayer de concurrencer le privé avec une chaîne qui va essayer de se battre sur le marché avec cette chaîne-là, la concurrence d'RTL ou avec la concurrence de TF1. Et puis pour les autres, on a un peu plus d'autonomie, un peu plus de choix, mais on sait bien que le public n'est pas au rendez-vous non plus. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'en Belgique francophone, on a une situation tout à fait particulière, qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. 45% du marché est entre les mains d'étrangers. 45% des Belges francophones regardent les chaînes françaises.
Heureusement qu'on les a.
Donc, heureusement qu'on les a.
Oui, mais la BRT et la ANS, ils ne sont pas gâtés.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chaînes belges francophones se battent pour 55% du marché. 55% du marché de la publicité. 55% du marché des auditeurs et des téléspectateurs. En Flandre, ce n'est pas du tout le cas. Il y a 3% des Flamands qui regardent les chaînes néerlandaises.
Oui, mais c'est d'un niveau...
Donc, les Flamands, surtout depuis l'apparition de VTM, ont réussi à constituer un marché captif. Chers amis flamands, nous allons maintenant regarder une émission flamande destinée aux Flamands, où on parle de la Flandre avec les Flamands, les Buckets de Vlamingen, etc. Et donc... Cette identité nationale, qui est aussi une caractéristique politique, elle existe du côté flamand, elle n'existe pas du tout. Elle n'existe pas du tout politiquement non plus du côté francophone. Et ça, c'est une caractéristique unique. Dans aucun autre pays, vous trouvez ça. En Hongrie, il y a des chaînes hongroises, et il n'y a que en Hongrie qu'il y a des chaînes hongroises. Au Danemark, il y a des chaînes danoises, il n'y a que des chaînes danoises.
Oui, tout à fait.
Il y a des chaînes danoises, norvégiennes, suédoises, polonaises, que sais-je.
Sur les postes néerlandophones, c'est tout de l'anglais. Tout est en anglais.
Vous entendez que des chansons anglaises.
Oui, mais les feuilletons, tout ça, tout est en anglais.
Mais il y a des feuilletons, il y a une production propre de feuilletons flamands, destinés au public flamand, avec des flamands, etc.
Ou la tache d'huile.
Ça existe très peu du côté francophone. Comment c'est une petite production de fiction propre du côté francophone, mais très peu.
Là, ma question est assez en dehors du thème. Le journal va disparaître, d'après vous, plus ou moins à long terme. Mais est-ce que les journaux féminins, comme enfin, Parti, comme Claire, je crois qu'il y a une audience féminine qui a besoin de ces petits journaux. Vous parlez de tout et de rien, mais qui sont amusantes, qui nous donnent des petits moments agréables, qui donnent de la cuisine, qui donnent... Est-ce que vous croyez qu'ils sont encore en temps ou aussi vont disparaître petit peu à petit peu?
Non, ce sont les médias qui résistent le mieux, ce sont les médias spécifiques, c'est-à-dire les journaux lifestyle, les journaux féminins, effectivement, les magazines féminins. Les magazins qui ont les journaux automobiles, les journaux qui ont un public spécifique et une ligne éditoriale spécifique. Cela dit, il faut quand même se rendre compte qu'un magazine féminin, c'est 98% de publicité. Il y a la publicité, mais il y a aussi les articles qui sont en fait de la publicité dissimulée sous forme d'articles. Pour des vêtements, pour des parfums, pour des cosmétiques, tout ce que vous voulez. À côté de ça, il y a heureusement encore aussi du contenu journalistique, plus dans certains que dans d'autres, etc. Il y a des magazines un peu alternatifs qui naissent et qui heureusement sont présents sur le marché, mais globalement, s'ils tiennent le coup mieux peut-être que d'autres magazines, c'est parce qu'ils ont énormément de ressources publicitaires.
Mais parce que si vous cherchez une déficit, vous pouvez les trouver aussi.
Sur Internet.
On peut la trouver sur Internet aussi. Ouais, ouais. La plupart du temps, c'est du contenu sponsorisé sur Internet aussi.
Mais non. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça, ça va avoir un impact?
Ça a déjà un impact, mais disons que la presse féminine, par exemple, résiste bien et se porte très bien.
Vous croyez vraiment qu'on arrivera, comme on entend parfois, à des articles qui sont produits par ordinateur?
Oui, c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas.
Les comptes rendus sportifs peuvent être produits par ordinateur. Il y a des robots qui fabriquent des contenus journalistiques. Oui, bien entendu. Lors des élections françaises, par exemple, des élections régionales, il y avait sur TF1, je crois, des résultats locaux et partiels qui étaient produits par ordinateur. Il n'y avait pas d'intervention humaine. À partir des données chiffrées, l'ordinateur produisait du contenu journalistique.
Et vous croyez que ça...
Je pense que dans des contenus répétitifs du genre, par exemple, compte rendu d'un match ou résultats électoraux, etc., ça va incontestablement se multiplier. Là où l'ordinateur, pour l'instant en tout cas, ne pourra sans doute pas remplacer l'être humain, c'est dans l'analyse, l'enrichissement,
dans l'originalité,
la vérification, etc. Là, pour l'instant, vous savez, l'intelligence artificielle se développe à un tel rythme que peut-être demain, nous serons moins intelligents que les machines qui décideront de notre disparition parce que nous sommes nuisibles.
Vous nous dressez un tableau finalement assez sombre de gens qui seront abrutis par des émissions stupides et qui feront tout pour éviter celles qui les font réfléchir. Mais dans le temps, avant Internet, avant les réseaux sociaux, avant tout, est-ce que vous pensez qu'il y avait une telle proportion de gens qui lisaient tous les journaux à fond, qui s'informaient, est-ce que la proportion de gens qui ne cherchent pas à s'informer, à comprendre le monde qu'ils vivent par rapport aux autres, est-ce que cette proportion n'est pas restée la même?
Moi, je pense qu'il faut se méfier de l'idée de l'âge d'or. Il n'y a pas d'âge d'or, il n'y a jamais eu d'âge d'or. Et ce que je vous disais tout à l'heure, et ce que je crois profondément, c'est que la logique qui a présidé à la naissance de la presse populaire et qui a présidé au développement des journaux, des million papers, etc., cette logique de raconter des histoires et de rassembler le public avec des contenus émotionnels, cette logique, elle est toujours là. Et elle rameute toujours la même proportion du public. Et à côté de ça, il y a toujours eu... Et il y a toujours, et il y aura toujours, des journaux de qualité, des émissions de qualité, des journaux qui apportent une information de fond, des blogs qui apportent une information de fond. Il y a eu, à un moment donné, par exemple, à partir de la fin du 19e siècle et au début du 20e, des journaux d'organisation, de syndicats, de partis qui mobilisaient les gens, qui leur donnaient une information de fond sur le fonctionnement de la société, qui essayaient de les mobiliser. Ils ont disparu, ils ont tous disparu. Mais la logique de la presse mainstream, des médias mainstream, elle a toujours été la même et elle reste la même. Mais vous avez raison, c'est une question statistique. Il y a une proportion statistique importante du public qui a cette propension à ne pas se fatiguer. Puis il y a des gens qui acceptent de se fatiguer un peu plus.
Mais quand je vois la presse écrite, quand je regarde le journal Le Soir, il est volumineux, il n'a pas diminué non plus de grandeur, hein, il est très grand. Quand je vois les autres journaux, dans la presse écrite, quel est le journal qui résiste le mieux pour l'instant? Je crois qu'il y a aussi une remise en question de la part du soi. Enfin, il devrait se remettre en question. Il y a tellement de matière, c'est tellement volumineux. Mes parents l'ont pris pendant des années. J'ai suivi ce journal pendant des années. Moi, ça me fatigue de voir ce volume. Alors, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de scinder ce journal en deux, par exemple, d'avoir un journal sportif? Oui, il est cette oui, de ça donne trois. Mais quand on l'achète, on a les trois. Et ça n'intéresse pas nécessairement tout le public. Moi, je me sépare, je garde une partie.
Alors, quel est, à votre avis, l'imprimé, l'organe de presse imprimé qui a le plus gros tirage en Belgique francophone? Ciné Télé Revue.
Oui,
pour faire 500 000 exemplaires par semaine.
Ouais.
En presse quotidienne, le journal qui a le plus gros tirage, c'est Métro.
Oui, mais il est gratuit.
Et juste derrière, c'est les différentes éditions de Sud Presse, donc la Capitale, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair, etc.
Et en France, c'est peut-être le Match.
Et en France, probablement, non, je ne crois pas, je crois que c'est la presse féminine qui tient le plus.
La presse féminine. Donc, dernière heure, le soir.
La dernière heure, loin derrière. Après Sud Presse.